السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، nous sommes 21 ذو القعدة 1446 de l'égir du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, correspondant au 18 mai 2025. Et c'est notre dernière assise pour traiter ce sujet de la plus haute importance, la préparation des cœurs afin de vivre le pèlerinage à la Mecque, ce grand pilier de l'islam. Nous le disons et le répétons sans cesse, un pèlerinage avec un cœur préparé ne sera jamais comme un pèlerinage avec un cœur distrait, insouciant, ne connaissant pas les profondes sagesses et les secrets résidant dans chacun des rites que le pèlerin accomplit à travers son adoration. Nous arrivons donc à la fin du pèlerinage. Nous avions parlé lors de notre dernière assise du tawaf ou l'ifada. Ce tawaf qui représente un des piliers du pèlerinage, pendant lequel un ange vient poser ses mains entre les deux épaules de la personne pour lui annoncer la bonne nouvelle que désormais ses péchés passés lui sont pardonnés et qu'il lui incombe d'œuvrer pour l'avenir. Allahu Akbar. Après cela, nous voici entrés dans les jours qui viennent après Al-Eid. On les appelle Ayyam al-Tashriq, les jours du Tashriq. Il s'agit du 11e, 12e et 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. En d'autres termes, il s'agit du 1er, 2e et 3e jour, tout de suite après le jour du Eid. Ces trois jours-là sont appelés Ayyam al-Tashriq. Le mot Tashriq vient du verbe Sharraqa, d'où l'action de sharraqa al-lahm, c'est-à-dire exposer la viande au soleil. Ces trois jours-là ont été appelés ainsi, car c'était une action connue lorsqu'ils sacrifiaient leurs bêtes le jour du Eid. Il n'y avait pas de réfrigérateur pour garder les viandes au frais. Ils les exposaient au soleil afin que la viande sèche et qu'elle puisse donc être consommable à long terme. On appelle cette action al-tashriq. Et la viande qui en ressort, une fois séchée, on l'appelle al-qadid. Al-qadid. Pendant ces trois jours-là, le pèlerin est toujours dans son pèlerinage. Il a même l'obligation, pendant ces jours-là, de faire le jet de pierre sur les stèles. L'obligation pour le 11e et le 12e jour. Et le 13e est recommandé. Si le pèlerin quitte les lieux de Mina avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant d'entrer dans la nuit du 13e jour, eh bien il peut quitter sans problème et nul grief pour lui. Par contre, si le pèlerin est toujours à Mina alors que le soleil s'est couché, le 13e jour devient pour lui obligatoire. Ainsi, il devra passer la nuit à Mina et aller jeter les pierres sur les trois stèles, puis s'en aller après avoir terminé son pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ » et évoquez le nom d'Allah pendant des jours comptés. Les jours comptés ici, au cours desquels Allah nous ordonne d'évoquer son nom, subhanahu wa ta'ala, sont les jours du Tashriq, les trois jours qui viennent après le jour du Eid. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Si'adi, rahimahullahu ta'ala, a dit « Les jours comptés sont les trois jours du Tashriq qui suivent la fête de l'Eid. Allah les a mentionnés en raison de leur mérite, de leur noblesse, et parce que le reste des rites du pèlerinage y sont accomplis. » De plus, les gens, ils sont les invités d'Allah. C'est pourquoi il est interdit d'y jeûner. Le rappel d'Allah à Dhikr y a donc un mérite particulier qu'on ne retrouve pas en dehors de ces jours. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah » Les trois jours, les jours du tashriq sont des jours où l'on mange, on boit et on évoque le nom d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah durant ces jours, nous dit l'imam Ibn Sa'di, inclut le dhikr lors du jet des pierres, lors de l'égorgement des bêtes, donc lorsque l'on jette les pierres, on dit Allahu Akbar à chaque pierre jetée, lors de l'égorgement des bêtes, et les formules de rappel spécifiques après les prières obligatoires. Certains savants ont même dit qu'il est recommandé d'y faire le takbir absolu, c'est-à-dire non limité aux prières, comme durant les 10 premiers jours du Dhul-Hijjah. Et cela n'est pas improbable. Fin de citation. On voit donc l'importance de ces trois jours-là. Ayyam al-Tashriq. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a carrément dit « Inna a'zama al-ayyami inda Allahi tabaraka wa ta'ala yawm al-nahri thumma yawm al-qarr » Les jours les plus immenses auprès d'Allah le Très-Haut sont le jour du sacrifice et le jour du repos. Le jour du sacrifice, c'est le jour du Eid. Le jour du repos, Yawm al-Qarr, c'est le jour qui suit. C'est le premier jour après l'Eid et c'est le 11e jour du mois de Dhul-Hijjah. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Yawm al-Qarr, le jour du repos? Parce que dans ce jour-là, les pèlerins restent à Mina. Et leur pèlerinage n'est pas terminé. Ils n'ont pas la possibilité de quitter Mina. Contrairement au 12e jour, au cours duquel les pèlerins ont la possibilité de quitter Mina après avoir jeté les pierres sur les trois stèles. Et donc, ces jours-là, les jours de Tashriq, auprès d'Allah Azza wa Jal, représente une très grande valeur et il y a en cela des sens profonds. Premièrement, l'abondance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ces jours bénis. Toutes sortes de rappels. Car le rappel d'Allah pendant les jours du Tashriq ont une importance particulière en raison du fait qu'Allah nous ait ordonné de l'évoquer au cours de ces jours. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Et évoquer le nom d'Allah au cours des jours comptés. Les jours comptés sont les jours de Tashriq. Et quoi que le pèlerin ait comme manquement pendant son pèlerinage, les jours passés, le fait d'être encore présent pendant les jours de Tashriq lui permet d'augmenter ses hasanats. Et de terminer son hajj de la meilleure des manières, vous allez voir, le dernier chapitre portera sur la fin du hajj, justement, incha'Allah ta'ala. Le fait d'évoquer Allah abondamment pendant les jours de Tashriq nourrit l'âme et fait encore grandir la foi et les sentiments profonds que le musulman ressent, tels que l'amour d'Allah, l'humilité, l'espoir, la crainte. Tout cela avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit fa ayyamu at-tashriq yajtami'u fiha lil mu'minin na'imu abdanihim bil akli wa shurb wa na'imu qulubihim bi dhikri wa shukr wa bidhalika tatimmu an-ni'mah kull wa kullama ahdathu shukran 'ala an-ni'mah kana shukruhum ni'matan ukhra fayahtaju ila shukrin آخر ولا ينتهي الشكر أبدا. Très belle parole. Les jours de Tashriq réunissent pour les croyants le plaisir du corps par la nourriture et la boisson et le plaisir du cœur par le rappel d'Allah et la reconnaissance envers Allah. Ainsi, le bienfait est complet et chaque fois qu'ils manifestent leur gratitude, leur reconnaissance envers Allah pour un bienfait, cette gratitude devient à son tour un autre bienfait qui mérite d'être remercié, ce qui appelle à un nouveau remerciement et ainsi le remerciement ne prend jamais fin. Fin de citation. Deuxième sagesse profonde pendant les jours de Tashriq. Ja'far al-Sadiq, rahimahullah ta'ala, a été interrogé sur la raison pour laquelle il est interdit de jeûner au cours des jours de Tashriq pour les pèlerins. Il répondit, il ne leur est pas permis de jeûner car ils sont les invités d'Allah. Ils sont invités par Allah. Ils ne doivent donc pas jeûner. Allahu Akbar. Et donc la sagesse, c'est que le fait que le pèlerin ressente qu'il est l'invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui pousse à ressentir cette proximité avec Allah, augmente son espoir en lui, le bonheur qu'il a d'adorer son Seigneur et de pouvoir répondre à son appel en ayant accompli son pèlerinage. Et ça, ça le poussera encore une fois à l'abondance de dhikr, d'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rappel. Troisièmement, beaucoup de pèlerins, qu'Allah nous guide et les guide, pendant les jours bénis de Tashriq, sont très insouciants. Il ne convient pas de l'être. Ils sont occupés par des distractions. Et ça, c'est par expérience, on le voit de nos yeux, on l'entend. Qu'est-ce qu'ils font très souvent? Ils s'assoient ensemble et passent leur temps à des discussions futiles, n'ayant pas la moindre valeur. Ça, c'est quand il n'y a pas de péché. Que dire alors quand les discussions relèvent de la médisance, de la calomnie, du mensonge, des péchés, et j'en passe. D'autres sont complètement occupés avec Internet et leur téléphone, branchés sur les réseaux sociaux, à regarder ce qui se dit ici et là, ce qui se trame, ce qui se passe ici et là, gâchant en cela les grandes sagesses des jours de Tashriq, qui ne sont pas des jours de détente, mais des jours où Allah te permet de clôturer de la plus belle des manières qui soit cette noble adoration, ce pilier de l'islam, al-Hajj. Et donc, sans nul doute, les gens qui passent leur temps de cette façon vont affaiblir leur cœur, leur foi, leur spiritualité et ne ressentiront donc pas ce qu'ils doivent ressentir dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce serait vraiment une grande erreur. Et après avoir parlé des jours de Tashriq, nous allons maintenant parler d'un sujet important qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bil khawatim. Les actes ayant le plus grand rôle, le plus grand impact, sont les derniers. Dans ta vie, lorsque tu agis, les dernières actions que tu fais seront cruciales dans ce qu'il adviendra de toi dans l'au-delà. Dans tes adorations, les dernières actions que tu fais sont cruciales dans la valeur de cette adoration et son acceptation ainsi que ses récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as terminé ton pèlerinage, tu as tout fait. Allah t'a honoré, il t'a comblé, il t'a favorisé, il t'a donné la santé, les moyens physiques, les moyens financiers, il t'a permis de vivre jusqu'à la date du pèlerinage, il t'a accordé de ses grâces pour que tu puisses arriver jusqu'à la Mecque, il t'a maintenu en vie, il t'a permis d'accomplir tout le pèlerinage, de le mener à bien jusqu'à la fin. Est-ce que à la fin tu vas le gâcher par des péchés, par des manquements? Ça serait vraiment dommage et ça serait un gâchis sans pareil. C'est pourquoi il incombe aux musulmans accomplissant le pèlerinage de façon obligatoire de garder à l'esprit qu'il doit protéger son pèlerinage jusqu'à la fin, en n'ayant pas de manquement, en ne commettant pas de péché dans les adorations, que ce soit les actions physiques ou les actes du cœur, par lesquels ses actions, ses récompenses augmentent. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs et les a encouragés à la fin de leur pèlerinage de plusieurs choses. Premièrement, l'abondance, encore une fois, du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Et lorsque vous avez parachevé vos rites, évoquez le nom d'Allah, tout comme vous évoquez vos ancêtres, et même plus encore. Tout comme vous n'oubliez pas vos ancêtres, vos parents, et plus encore, évoquez le nom d'Allah lorsque vous avez terminé votre pèlerinage. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas indépendamment de la volonté d'Allah que tu as accompli ton pèlerinage. C'est grâce à Allah, il t'a facilité, il t'a permis d'arriver jusqu'ici. Il t'a recouvert de ses grâces, il t'a honoré par ses bienfaits. Ô combien il serait ingrat envers Allah de ne pas l'évoquer après avoir terminé l'adoration du pèlerinage. L'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, nous dit en commentant ce verset, « يَأْمُرُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَالْإِكْثَارِ مِنْهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ وَفَرَاغِهَا » Allah, le Très-Haut, nous ordonne d'évoquer son nom abondamment après avoir complété les rites du pèlerinage. Deuxième chose, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal, après ce verset, quand il dit « Aw ashadda dhikra » évoquez le nom d'Allah comme vous vous souvenez de vos ancêtres, et bien plus encore, tout de suite après il dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et parmi les gens, il y en a qui disent « Ô Seigneur, accorde-nous une part dans cette vie d'ici-bas. » Et ils n'auront rien dans l'au-delà. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Et parmi eux, il y a ceux qui disent « Ô Seigneur, accorde-nous une belle part dans l'au-delà, une belle part dans ce bas-monde et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Donc, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous a mentionné une invocation. Comme si Allah voulait nous dire « Une fois que vous avez terminé votre pèlerinage, évoquez le nom d'Allah, puis invoquez-le. » Sollicitez-le et demandez-lui de ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره. Après avoir donné l'ordre de l'abondance de son rappel, Allah a orienté ses serviteurs vers la nécessité de l'invoquer. Pourquoi? فإنه مظنة الإجابة. Car c'est plus à même d'être exaucé. Tu as évoqué le nom d'Allah, maintenant tu lui demandes. وَذَمَّ مَنْ لَا يَسْأَلُهُ. Et il a blâmé ceux qui ne l'invoquent pas, si ce n'est dans les choses de dunya, en se détournant de l'au-delà. Il faut donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, l'abondance de la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit invoquer Allah, ça c'est de manière générale. Maintenant, de manière spécifique, dans les invocations, la demande de pardon. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ » Après avoir passé le moment al-Muzdalifa, il nous dit subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset, puis « déferlez, tout comme les gens déferlent. » Ou alors, d'où les gens déferlent et implorer le pardon d'Allah. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. L'imam Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit, et puisque ce déferlement, cette descente de Arafat jusqu'à Muzdalifa, vise ce qui a été mentionné, les rites, lesquels sont les derniers actes du pèlerinage, Allah exalté soit-il a ordonné, une fois ses rites achevés, de demander son pardon et d'abonder dans le rappel d'Allah. L'istighfar, la demande de pardon, est là pour compenser les manquements de la part du serviteur dans l'accomplissement de son adoration et ses insuffisances. Le rappel d'Allah quant à lui est une forme de gratitude envers lui pour la faveur qu'est la réussite dans l'accomplissement de cette immense adoration et ce noble bienfait. Subhanallah, méditez et vous voyez la perfection de la religion et des ordres d'Allah. Allah nous ordonne de l'évoquer à dhikr et ensuite de lui demander pardon. Pourquoi l'évoquer? Pourquoi lui demander pardon? L'évoquer pour lui remercier de nous avoir permis d'accomplir le hajj. Lui demander pardon à cause des manquements que l'on a commis pendant ce hajj. Et ainsi, on augmente les probabilités de voir notre pèlerinage récompensé grandement par Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Siadi continue et dit, ainsi doit être l'attitude du serviteur. Chaque fois qu'il termine une adoration, qu'il demande pardon à Allah pour ses manquements et qu'il le remercie pour lui avoir accordé la réussite. Et ça, c'est vraiment la situation du croyant, subhanallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait la nuit, et à la fin de la nuit, après avoir clôturé ses prières de nuit, il implorait le pardon d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait des efforts toute sa vie, et juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Allahumma ghfirli, ou oh Allah, pardonne-moi et fais-moi rejoindre la plus haute assemblée. Qu'est-ce qu'il fait pendant sa prière? Il invoque Allah, il fait cette adoration. Et qu'est-ce qu'il fait juste après la prière? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Sa'di a dit, et non pas comme celui qui pense qu'il a accompli son adoration à la perfection, qu'il en fait une faveur envers son Seigneur, et qu'elle lui confère une haute place et un mérite particulier. Celui-là mérite le rejet et la réprobation. Il s'agit de quelqu'un qui fait une adoration, après l'avoir achevée, au lieu de se montrer humble devant son Seigneur, il se voit méritant, comme si Allah doit le récompenser, indépendamment de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ça serait une grande erreur. Ibn Sa'di termine sa parole, tandis que le premier, donc celui qui s'humilie face à Allah, est digne d'être accepté et d'être guidé vers d'autres œuvres encore meilleures. Quatrième point, la piété, at-taqwa, la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot at-taqwa résume l'obéissance d'Allah, le délaissement des interdits, l'accomplissement des obligations. Pourquoi la méditation particulièrement sur la piété à ce moment-là, at-taqwa? Si vous méditez dans les versets du pèlerinage, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la taqwa avant le pèlerinage, pendant et à la fin. Il nous ordonne avant le pèlerinage quand il dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et prenez vos provisions. Vous vous souvenez, en début de série de cours, on a dit que les provisions sont de deux catégories, physiques et spirituelles. Allah nous ordonne de prendre ces deux provisions. Il nous ordonne donc de s'approvisionner et il nous dit de le craindre, de faire preuve de piété. Ça, c'est la meilleure provision pour le pèlerinage. Là, on est avant le pèlerinage. Il y a aussi la piété pendant le pèlerinage et il y a la piété après le pèlerinage. Allah Azza wa Jal nous dit الحج أشهر معلومات لا واذكروا الله في أيام معدودات. Et évoquez le nom d'Allah pendant des jours comptés, les jours de Tashriq. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Et quiconque s'empresse, c'est-à-dire de quitter les lieux après le deuxième jour, c'est-à-dire il fait le premier jour et le deuxième jour après l'Eid Amina, puis il s'en va avant le lever du sol, avant le coucher du soleil, nul péché pour lui. Et celui qui retarde, qui préfère rester donc avec le jour après le jour suivant. Nul péché pour lui, limanittaqa, pour celui qui fait preuve de piété. Donc là, on a la piété, quand est-ce que on a la piété pendant le pèlerinage. Et il y a aussi la piété à la fin du pèlerinage. Donc, on voit l'importance de ce sens qu'est la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerin qui a accompli son pèlerinage a sûrement beaucoup de péchés. Il a beaucoup de manquements. Alors, il s'empresse de faire les bonnes œuvres et de concrétiser cette taqwa avant même d'entrer au pèlerinage, pendant son pèlerinage, après son pèlerinage. Peut-être Allah va-t-il lui accepter ce pèlerinage. Et c'est ça son plus grand souhait, ce qu'il y a de plus cher pour lui. Chapitre suivant, il nous reste une action à faire. Il reste au pèlerin une action à faire, qui est une des obligations du pèlerinage. Le tawaf d'adieu. Tawaful wada'. Le tawaf d'adieu. C'est une obligation du pèlerinage. Le pèlerin, avant de quitter les lieux, il a tout terminé. Il doit aller faire un tawaf, puis s'en aller. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit « Umir al-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil-bayt » Les gens ont reçu l'ordre de faire la dernière chose dans leur voyage, le tawaf, tourner autour de la maison. De faire du tawaf, la dernière chose qu'ils font avant de quitter les lieux. Également, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 13 de Dhul-Hijjah, a prié le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha, puis il s'est allongé, il s'est endormi pour prendre un peu de repos. Ensuite, il est monté sur sa chamelle et il est allé faire un tawaf pour s'en aller. On l'appelle tawaf ul-wada', le tawaf d'adieu. Le tawaf d'adieu a une particularité vraiment spécifique. N'est-ce pas que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas vu quelqu'un depuis longtemps, tu vas entreprendre un voyage pour aller lui rendre visite. Tu vas passer du temps avec cette personne et tu dois t'en aller. Comment vas-tu être dans tes sentiments? Entre la joie d'avoir pu voir cette personne et la tristesse de s'éloigner d'elle, n'est-ce pas? Ensuite, des fois, tu quittes une personne en te disant que tu vas la revoir. Donc c'est quelque peu rassurant. Mais quand tu quittes une personne en te disant que peut-être c'est la dernière fois que tu la vois, les sentiments prennent une autre ampleur. Ainsi, tawaf ul-wada', le tawaf d'adieu, a dans le cœur du croyant des sens profonds encore une fois. Premièrement, le grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et le grand manque, le manque qu'il a ressenti avant d'aller à la Mecque, le manque qu'il a ressenti à l'idée de voir la Kaaba. Le voici à revenir en lui quand il accomplit tawaf ul-wada', le pèlerinage d'adieu. C'est comme s'il voulait penser la plaie, combler un vide, car il sait qu'il doit quitter la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu quittes la maison de quelqu'un que tu aimes, des fois tu es triste. Là, il s'agit de la maison d'Allah. Ibrahim l'a élevé avec son fils, alayhim assalam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était là. Il a fait le tawaf avec les compagnons. Tout est parti d'ici. L'islam part d'ici. Allah t'a amené jusqu'ici et maintenant tu dois quitter les lieux. Le sentiment que tu éprouves est bien particulier. Et on a vu des gens fondre en larmes à l'idée de quitter la Kaaba en demandant à Allah, en suppliant Allah Azza wa Jal de leur accorder une nouvelle foi la possibilité de revenir accomplir le pèlerinage à la Mecque, ce grand pilier de l'islam. Allahu Akbar. Deuxièmement, la crainte. La peur de quoi exactement? Tu dois craindre qu'Allah n'accepte pas ton acte. Ça ne t'empêche pas d'avoir une bonne opinion d'Allah. Tu as une bonne opinion d'Allah, tu espères qu'Allah te l'accepte. Mais tu n'es pas plein d'orgueil. Tu n'es pas là à te penser, à croire de toi que tu es ce que tu n'es pas. Allah n'a aucune dette vis-à-vis de toi, mais c'est toi qui en as vis-à-vis de lui. Et en plus, il n'a pas besoin de tes dettes. Si tu règles tes dettes d'adoration envers Allah, ce n'est que pour ton bien. Tu ne lui ajoutes rien. Donc tu dois craindre, parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Allah n'accepte que des pieux. Qu'est-ce que tu en sais si tu as accepté ou pas? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu disait « Si je sais qu'Allah m'a accepté, ne serait-ce qu'une seule prosternation, je serai tranquille, parce qu'Allah a dit qu'il n'accepte que des pieux. » Regardez l'intelligence et la science profonde. Si Allah t'a accepté, du fait qu'Allah n'accepte que des pieux, ça veut dire que tu es pieux, et si tu es pieux, ça veut dire qu'Allah t'accepte le reste des autres actions. Mais toi, tu ne sais pas si tu es accepté. Tu dois donc espérer qu'Allah te l'accepte, subhanahu wa ta'ala, et ne pas te comporter comme ceux dont nous allons parler dans quelques instants, inshallah ta'ala. Et donc, pour repousser cette peur de ne pas être accepté, tu demandes à Allah le pardon. Tu te repens à lui, plein d'humilité. Tu te fragmentes devant la grandeur de ton Seigneur. Troisièmement, l'espoir en Allah. Car on doit craindre, mais on doit espérer aussi. On doit espérer qu'Allah accepte, subhanahu wa ta'ala. Tu dois espérer pendant tawaf al-wada' qu'Allah t'accepte tout ce pèlerinage, toutes ces dépenses, le fait de t'être séparé de ta famille, d'avoir sorti de ton argent, d'avoir fait des sacrifices, d'avoir patienté. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous demande de m'écouter et de prendre ce conseil-là. Vous allez avoir des difficultés pendant votre pèlerinage, il fait chaud, c'est difficile, vous allez avoir des imprévus, certains vont tomber malades, vous allez perdre des objets de valeur, et j'en passe. Vous allez peut-être avoir des désaccords avec vos frères, vos sœurs. Soyez patient. Soyez patient, car quand le pèlerinage va terminer, ceux qui auront été patients seront heureux d'avoir patienté. Et ceux qui n'ont pas su patienter regretteront et éprouveront de l'amertume de ne pas avoir été patient. À la fin de ton pèlerinage, tu espères justement que toute cette patience dans laquelle tu as enduré toutes ces difficultés te soit récompensée par Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah qui t'a honoré par cette adoration et t'a permis de venir jusqu'ici. Tu dois te rendre compte de cela et augmenter ton espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, tu dois éprouver de la pudeur envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois éprouver de la pudeur envers lui, parce que tu te dis, Allah m'a invité, il m'a honoré, il m'a comblé de ses faveurs et de ses bienfaits. Avec tous les péchés que j'ai, il m'a choisi. Combien de gens il y a dans ce monde? Et dans tous ces gens-là, combien sont ceux qui n'ont pas l'intention d'aller au Hajj? Combien sont ceux qui ont l'intention mais qui ont été distraits, ou qui n'ont pas les moyens physiques, ou pas les moyens financiers, ou qui ont tout fait mais qui ont eu un empêchement? On a vu des gens arriver et devoir rentrer en France. Pourquoi? Parce que soit il y a un décès, soit il y a une personne malade, soit il y a des choses comme ça. Allah t'a permis à toi de mener à bien le pèlerinage jusqu'à la fin. Alors, aie de la pudeur envers ton Seigneur. Sois pudique devant lui. Regrette tes péchés, rabaisse-toi devant lui. Ne t'enfle pas d'orgueil. Ne pense pas que tu as atteint un niveau qui n'est pas le tien, car tu n'es qu'un faible serviteur. Et en dernier chapitre, on citera la droiture après le pèlerinage. La droiture après le pèlerinage. La droiture dans la vie du musulman est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Observe la droiture comme il te l'a été ordonné, à toi et ceux qui se sont repentis avec toi, et ne transgressez pas. Certes, il est parfaitement connaisseur et clairvoyant de ce que vous faites. Soufiane, d'après Abdullah ibn Soufiane al-Thaqafi, radiyallahu anhu, ce compagnon a dit, « Qultu ya Rasulallah, qulli fil islami, qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Enseigne-moi une parole dans l'islam après laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, قال قل آمنت بالله ثم استقيم. Il lui dit, dis, j'ai foi en Allah, puis observe la droiture. Le fait d'observer la droiture, c'est le fait de suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal sans exagération ni laxisme. Si tu exagères, tu n'es pas dans la droiture. Si tu es laxiste, tu n'es pas dans la droiture. Tu dois simplement observer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as accompli le pèlerinage. Tu as passé ton temps à répéter la baik, la baik, la baik. Je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Si tu réponds à l'appel d'Allah, ce n'est pas pour oublier l'appel d'Allah dans ta vie, tous les jours. Tu dois donc observer cette droiture-là que tu as respectée pendant le pèlerinage. Lorsque tu rentres chez toi. Et la deuxième chose, donc là, on a parlé premièrement du fait que la droiture est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Cette droiture-là se manifeste par deux choses. Premièrement, observer les ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ordres d'Allah en apparent et dans ton fort intérieur. Sans exagération, sans laxisme, comme nous l'avons dit. Deuxièmement, la fermeté dans cette adoration-là. Tu t'es mis dans la droiture, tu dois observer cette droiture et être ferme, assidu dans celle-ci. Le pèlerin doit être assidu dans l'obéissance à Allah après son pèlerinage et s'engager de l'être jusqu'à sa mort. C'est ça un hajj mabrour, pieusement accompli. Et c'est ça la preuve que ton pèlerinage était bon, c'est que tu as changé après ton pèlerinage. C'est qu'il t'a réformé, c'est que tu observes maintenant la droiture, que tu te comportes envers ton Seigneur comme il se doit. Non pas comme ces gens qui se disent, c'est bon, moi j'ai accompli le pèlerinage, j'ai atteint un niveau de piété, je suis pieux, on m'appelle Hajj, on m'appelle ceci et cela. Ça c'est de l'égarement et de l'ignorance, c'est un miskin celui-là. C'est un pauvre, celui qui pense comme ça. Les grands sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce de l'entrée au paradis. Vous entendez? De l'entrée au paradis. Avec cela, ils craignaient Allah Azza wa Jal et redoublaient d'efforts encore plus qu'ils ne le faisaient après que le prophète alayhi salam leur ait fait l'annonce de l'entrée au paradis. Ça, c'est le comportement d'un croyant. C'est comme si on te disait, tu as gagné un cadeau. Demain, je t'offre tel cadeau. Est-ce que ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi? Non, il y a une condition. Si entre au moment où je te fais la bonne annonce et demain tu changes de comportement, je change d'avis, je ne t'offre pas ce cadeau. Et sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quand ils ont entendu que ils ont l'annonce de l'entrée au paradis, ils ont redoublé d'efforts pour être meilleurs qu'ils ne l'étaient avant d'avoir entendu cette annonce qui leur a été faite. Et c'est ça le comportement du croyant. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ بَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ إِطْلَاقَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي لَهُ وَمُسَامَحَتَهُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ بَلْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَشَدَّ اجْتِهَادًا وَحَذَرًا وَخَوْفًا بَعْدَ الْبِشَارَةِ مِنْهُمْ قَبْلَهَا كَالْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ. Subhanallah, Ibn al-Qayyim rahimallah dit: et pour cela, les compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle de l'entrée au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais compris de cette bonne nouvelle qu'ils pouvaient désormais faire les péchés qu'ils voulaient et que de toute façon ils allaient être pardonnés, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Au contraire, ils étaient encore plus intenses dans les efforts qu'ils faisaient dans les adorations, et ils avaient encore plus peur qu'ils ne l'avaient avant. C'est comme ça qu'ils étaient. Radiyallahu ta'ala anhum. Ibn al-Qayyim a dit وَكَذَلِكَ عُمَرْ فَإِنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الْبِشَارَةَ الْمُطْلَقَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشُرُوطِهَا وَالِاسْتِمْرَارِ عَلَيْهَا إِلَى الْمَوْتِ وَمُقَيَّدَةٌ بِانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا وَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مِنْ حَيْثُ مِنْ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَالْإِذْنَ فِيمَا شَاءُ مِنَ الْأَعْمَالِ. Ce sont des paroles en or. Ibn al-Qayyim a dit, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu faisait très attention, il avait très peur, de même que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Aucun d'entre eux n'avait compris de cette bonne annonce que lui avait faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agissait d'un droit absolu à faire ce qu'il voulait. Mais ce qu'ils avaient compris au contraire, c'est que cette bonne annonce qui leur avait été faite avait ses conditions, qui est d'observer la fermeté jusqu'à la mort. C'est ainsi qu'étaient les compagnons, et c'est ainsi que doit être le pèlerin après son pèlerinage. Il doit observer la droiture dans la religion d'Allah et ne pas se dire « j'ai accompli le pèlerinage, j'ai atteint tel et tel degré, tu n'as rien atteint, qui tu es ?» Qui tu es, si ce n'est un fauteur, un pécheur qu'Allah a bien voulu prendre dans sa miséricorde par pitié pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Faites donc attention à cela. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa bismihi al-a'zam الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Nous implorons Allah par ses noms les plus parfaits, ses attributs les plus sublimes. Lorsqu'il est invoqué par ceux-ci, il répond aux invocations. Nous lui demandons de nous accorder à tous et à tous les musulmans un pèlerinage pieusement accompli, accepté, qui soit la cause de notre réforme et de notre guidée. Et je termine avec la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, par laquelle j'avais commencé cette série, qui a dit un jour, qala yawman wa huwa bi tariqi Makkah, alors qu'il était en chemin vers la Mecque, il se mit à parler pour dire, wa huwa yuhaddithu nafsah, se parlant à lui-même, il dit, yusha'athun wa yughabbarun wa yat'abun wa yadujjun لا يريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا ما نعلم سفرا خيرا من هذا يعني الحج. Il dit un jour, alors qu'il était en chemin vers la Mecque, se parlant à lui-même, il se couvre de poussière, c'est-à-dire il au pluriel, il parle de plusieurs personnes, il se couvre de poussière, se salissent, ils se fatiguent, ils élèvent leur voix sans rien rechercher des biens de ce bas monde. Nous ne connaissons aucun voyage meilleur que celui-ci. Il parlait du pèlerinage à la Mecque. C'est donc le voyage de la vie, et un voyage de la vie, on doit préparer son cœur, on doit amener là-bas un cœur pieux. Tu dois voyager au pèlerinage, non pas simplement avec ton corps et ta valise, mais tu dois envoyer à Mecca ton cœur avant même d'y envoyer ton corps et ta valise. نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم جزاكم الله خيرا. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que cette série de cours soit utile aux musulmans et aux musulmanes et que par celle-ci il me pardonne mes nombreux péchés et couvre mes nombreux défauts. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.